Conte des six trésors, le coffre-fort, page 58. Au beau milieu de la nuit, elle se leva, alluma les cinq bougies de son chandelier et descendit en robe de chambre le grand escalier sur la pointe des pieds. En bas, elle veilla à marcher le long du mur pour ne pas faire grincer le plancher. Elle traversa la grande salle à manger, passa devant le portrait de la tante Célina dont le visage semblait aussi blanc et fragile qu'une belle porcelaine. Il lui sembla que la vieille dame la suivait du regard avec un sourire attendri. Mais sans doute n'était-ce que le reflet de la bougie sur la toile. La nuit, tout prend des proportions fantastiques. Béatrice entra ensuite dans le salon rouge, poussa le fauteuil de rotin, ouvrit le bahut chinois. Puis elle resta deux bonnes heures à contempler le coffre, gardien d'un secret inaccessible. Pas un bruit, hormis le tic-tac inexorable de la pendule. Pas d'autre mouvement que le balancier de cuivre allant et venant dans son inlassable course. Béatrice réfléchissait intensément, scrutant le géant de fer dans ses moindres détails. Peut-être le coffre était-il vide, comme le disait grand-père Hubert. Peut-être, au contraire, contenait-il quelques secrets de famille, quelques lignes ou bijoux, ou Dieu sait quoi encore de plus précieux. Quand la pendule sonna 5 heures, Béatrice se leva, posa sa main gauche sur la froide porte du coffre, sa main droite sur son cœur et dit d'une voix solennelle « Sur mon honneur, je m'engage à tout faire pour percer le secret du coffre-fort. » Béatrice n'était pas de ces velléitaires qui oublient aussi vite qu'ils promettent. Elle avait un sens très aigu de l'engagement et du respect de la parole donnée. Elle remonta dans sa chambre, s'installa à son bureau et commença à calculer à haute voix. « Alors voyons, il y a 6 molettes sur le coffre. » Avec 10 chiffres pour chaque molette de 0 à 9. Cela fait donc 10 combinaisons possibles. Autrement dit, il y a 1 million de combinaisons possibles. La première étant 0000000 et la dernière 999999. Impossible, naturellement, de les essayer tout à la suite. Oh là là, cela prendrait trop de temps. Non. Pour réussir, il faut que je sois à la fois méthodique et patiente. Elle fit encore toute une série de calculs et au terme de ce travail minutieux, voici la décision qu'elle prit. À compter d'aujourd'hui, j'essaierai 30 combinaisons chaque jour. Les jours où je serai absente, je devrai naturellement rattraper le retard à mon retour. Alors, comme ça, ainsi j'aurais testé 10 950 combinaisons au bout d'un an et 109 500 au bout de 10 ans. En comptant les années bissextiles, je les aurais donc toutes essayées en exactement 91 ans et 96 jours. Sachant que j'ai 10 ans, 3 mois et 5 jours, le coffre m'aura révélé son secret avant que j'aie atteint l'âge de 101 ans, 6 mois et quelques jours. Bien entendu, je ne suis pas certaine de vivre jusqu'à cet âge avancé, mais d'un autre côté, il est fort probable que je serais tombée sur la bonne combinaison bien avant. Ainsi était Béatrice, précise, méthodique et patiente. Elle commença dès le lendemain. Quand la maison fut endormie, une ombre légère se déplaça furtivement jusqu'au salon rouge. Assise sur le fauteuil en rotin, le cœur bondissant comme une poule dans un sac, Béatrice essaya la première combinaison. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puis tournant d'un cran la première molette, elle testa la deuxième combinaison. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Puis la troisième et ainsi de suite jusqu'à 0, 0, 0, 0, 2, 9. À chaque nouvelle combinaison, elle essayait d'ouvrir la lourde porte de métal. En vain. Cela lui prit à peine 5 minutes. Avec la régularité d'un métronome, elle testa 30 combinaisons la nuit suivante. Et encore celle d'après. Et ainsi de suite pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Béatrice mettait tant d'elle-même dans cette quête que, bientôt, ce rituel rythma son existence. Il changea même sa façon de mesurer le temps. Elle ne comptait plus en heures, en jours, en mois ou en années, mais elle comptait en molettes, une nouvelle unité de temps qu'elle avait mise au point. Pour bien tout comprendre, il n'est pas inutile de décrire brièvement son système de mesure. Alors, nous nous souvenons qu'il y avait 6 molettes sur le coffre et que Béatrice composait 30 combinaisons par jour. Chaque jour, elle actionnait donc la première molette 30 fois. Ainsi, dans son système temporel, une molette valait un peu moins d'une heure. Elle ne tournait la seconde molette, baptisée par elle bimolette, que 3 fois par jour. Une bimolette représentait donc l'équivalent de 8 de nos heures. La troisième molette ou trimolette ne tournant d'un cran que tous les 3 ou 4 jours, il fallait un peu plus de 2 trimolettes pour faire une semaine. Et ainsi de suite, une quadrimolette valait un peu plus d'un mois, une quinquamolette un peu moins d'un an et une sexamolette un peu plus de 9 ans. Et molette après molette, eh ben le temps passa. Béatrice en était à la combinaison 1, 2, 8, 0, 6, 9 et elle avait donc environ 22 ans, suivant notre mesure du temps. Quand son grand-père, Hubert, mourut, quelques trimolettes à peine après la vieille zèle. Ses parents héritèrent de l'hôtel particulier et elle s'y installa définitivement. Béatrice se maria à 139349 et eut un garçon 2 quinquamolettes plus tard. Son mari, mobilisé sur le front, mourut à la guerre, tandis que son enfant n'avait encore que 6 quadrimolettes et 3 dents. Ce fils se maria à 577349 avec une charmante jeune fille qui avait une bonne sexamolette de moins que lui. Béatrice perdit ses parents à quelques quadrimolettes d'intervalle et se retrouva seule dans la demeure familiale. La vie passait, Béatrice, dans son fauteuil en rotin, poursuivait avec une conscience monacale sa litanie de combinaisons. Elle connut des moments de joie, notamment à chaque fois qu'elle avançait d'un cran la sexamolette. Elle eut aussi des moments de doute, car si elle rêvait à chaque instant d'entendre le déclic magique, elle redoutait de n'y découvrir à l'intérieur que des toiles d'araignée. Il lui arriva même de ressentir quelques moments d'impatience. Elle avait tellement hâte d'achever sa quête que certains jours, elle était tentée d'outrepasser son quota de 30 combinaisons quotidiennes. Pourtant, elle ne dérogea jamais à la règle qu'elle s'était fixée. Cette tâche était devenue un élément dominant de sa vie, au point que même lorsqu'elle quittait le vieil hôtel particulier, ses pensées continuaient à la relier au coffre-fort. D'où son comportement quelquefois étrange, comme ce jour où, devant le musée du Louvre, elle étonna un passant en disant en tout haut « Nom d'une trimolette, c'est décidé, ce soir, armée d'un chalumeau et d'une masse, j'irai forcer le coffre-fort !» L'homme en question, surpris de voir une dame d'apparence très respectable tenir de tels propos, s'éloigna vivement, mi-choqué, mi-inquiet. Quand la sexamolette indiqua le chiffre 9, Béatrice était devenue une vieille dame, fragile, chancelante. Elle avait atteint ce crépuscule de l'âge où chaque soir apparaît comme le seuil d'un lendemain précaire. Mais elle n'appréhendait pas la mort. Tout au plus craignait-elle que le grand sablier ne lui laisse pas le temps d'achever sa quête, car en dépit de son grand âge, sa volonté de percer le secret du coffre était demeurée intacte, aussi vive que le jour où elle avait prêté son serment. Une nuit d'hiver, elle entendit une voix. Était-ce le souffle du vent ? Non, c'était un appel, doux et mélodieux. Il venait d'en bas. Béatrice se leva, enfila une petite laine et trottant à petits pas, elle chemina lentement vers la voix qui semblait provenir du salon rouge. En traversant la salle à manger, comme chaque jour depuis plus de 9 sexamolettes, elle passa devant le portrait de tante Célina. Cette fois, il n'y avait pas de doute, l'aïeul souriait vraiment. La voix s'était tue, mais Béatrice avait deviné. Elle entra dans le salon rouge, s'assit dans son fauteuil en rotin, ouvrit le meuble chinois et tourna la molette une fois. Un seul cran. Elle ne fut même pas surprise d'entendre un déclic, ce déclic magique auquel son cœur aspirait depuis tant et tant d'années. Elle resta immobile pendant une fraction d'éternité, impossible à mesurer en termes de temps. Elle inspira une longue bouffée d'air, expira doucement, puis elle saisit avec une infinie douceur la poignée de la lourde porte. Elle avait fait ce geste des milliers de fois pendant sa vie, au point que sa main en portait la marque. Mais cette fois, le lourd battant ne résista pas, la porte s'ouvrit. Au début, Béatrice ne vit rien. L'intérieur du coffre était noir. Puis ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Elle devina alors un chemin. Il menait à une lueur diffuse et irréelle, loin, très loin au fond du coffre. Alors, elle entendit à nouveau la voix, cette fois-ci très distinctement. C'était un chant d'appel, le plus mélodieux qu'on puisse imaginer. Il provenait de cette clarté. Béatrice se leva, son vieux corps ne lui pesait plus. Elle se sentait légère, légère comme un souffle. Elle entra dans le coffre et, sans se retourner, s'engagea sur le chemin. Au matin, c'est la femme de chambre qui découvrit Béatrice, immobile, dans son fauteuil en rotin devant le coffre fermé. Un sourire angélique éclairait son beau visage de vieille dame, dont les rides étaient comme des rayons autour de ses yeux, deux soleils désormais éteints à la lumière d'ici-bas. La bonne comprit tout de suite. Pourtant, il y avait quelque chose de si serein dans ce tableau qu'elle ne fut pas effrayée. Elle arrêta simplement le balancier de l'horloge et murmura. Pauvre madame. Et dire qu'elle n'aura même pas réussi à ouvrir le coffre. Après tous ses efforts et ses années de patience, non vraiment. Il n'y a pas de justice en ce bas monde. Elle ignorait, cette brave chambrière, les trésors infinis que Béatrice était en train de découvrir. Des trésors mille et mille fois plus précieux que ceux dont les esprits les plus imaginatifs peuvent rêver dans leurs songes les plus fous.